Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Anne Niva. Bonsoir.
Bonsoir Caroline Mauss.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes grand reporter au journal Le Point. Vous avez publié La haine et le déni avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre. C'est aux éditions Flammarion. Ça fait 30 ans que vous faites ce métier, que vous êtes grand reporter. Et ce que vous avez voulu faire avec ce livre, c'est tout simplement donner la parole au peuple en Ukraine, mais aussi en Russie. Je voudrais qu'on commence avec l'actualité. Côté russe, l'état-major russe a annoncé vendredi qu'ils allaient lancer une campagne de conscription. Celle-ci concernera des dizaines de milliers de jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans. L'armée a assuré que ces nouvelles recrues ne seront pas envoyées sur le front ukrainien. Alors, vous avez rencontré ces jeunes russes. À votre avis, comment est-ce que c'était redouté, cet appel à la conscription?
Non, mais d'abord, Caroline, cet appel à la conscription, il n'est pas anormal. Deux fois par en Russie, l'armée russe n'est pas une armée de métier. C'est une armée encore qui utilise des conscrits.
D'accord.
Deux fois par an, les Russes y sont habitués. Il y a l'appel d'avril, c'était toujours le 1er avril, et puis en automne. Mais simplement là, à cause de la guerre, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont concernés. Ça monte à 150 000.
Ouais.
Donc, et puis surtout, il y a l'âge, maintenant c'est de 18, non plus qu'à 27 ans, mais jusqu'à 30 ans. Donc tout ça est fait dans un seul but, Caroline, c'est pour que Vladimir Poutine évite de déclarer une seconde vague de mobilisation.
Il a attendu
parce
après
que ça
les
le
élections.
Gêne quand même.
Oui.
Oui, mais ça veut quand même dire que même élu à 87%, ouais, il n'a pas un blanc-seing de sa population pour faire ça.
C'était
il
la question que je vous posais. Est-ce que du coup, cette jeunesse-là, elle la craint, cette mobilisation, cet appel à la conscription dans un contexte de guerre désormais?
Oui, bien sûr, bien sûr. Vladimir Poutine ne cesse de dire que les conscrits ne sont pas envoyés, voilà, sur le terrain en Ukraine. Il y a eu quelques exceptions qui ont fait grand bruit en Russie. Donc évidemment que les jeunes peuvent avoir peur. Mais surtout, le fait est que juste après avoir terminé leur service militaire, c'est là qu'ils sont envoyés. Mmh. C'est là où il y a une énorme pression sur eux pour qu'ils signent le contrat.
Mmh. Comment est-ce qu'ils vous ont accueilli, les Russes ?
Bien. Très bien.
Bien, parce que vous parlez parfaitement leur langue.
C'est ça. C'est vraiment la grande, grande, ouais, raison. Et côté ukrainien, je dois dire aussi, mais c'est, et je parle russe aussi en Ukraine. C'est-à-dire, ouais, je ne parle pas l'ukrainien, qui est une langue différente du russe, même si elle est proche, mais les Ukrainiens m'ont pardonné le fait que je ne puisse leur parler qu'en russe. Ouais. Ils ont compris que s'ils voulaient me parler, me dire des choses, il fallait me parler en russe.
Mais est-ce qu'ils avaient envie de vous parler, oui, avec l'histoire qui est la vôtre? Vous connaissez parfaitement bien leur pays. Comment est-ce que c'est passé l'accueil du côté russe précisément? Parce qu'on les a plus fait parler, les Ukrainiens.
Oui.
Moins les Russes.
Mais on les a plus fait parler, Caroline, parce que c'est beaucoup plus facile techniquement d'aller en Ukraine. On n'a pas besoin de visa. En Russie, c'est un pays où il y a besoin d'un visa. Il y a toujours eu besoin d'un visa, mais là, évidemment, ça devient de plus en plus difficile. Les journalistes sont contrôlés, etc. Mais j'y vais depuis tellement souvent. Ça fait 30 ans que je vais en Russie, que pour moi, il n'y a pas de différence entre cette fois-ci les fois précédentes. La différence, c'est que, évidemment, je dois être encore plus discrète pour leur parler, c'est-à-dire pour leur faire comprendre que ce qu'ils vont me dire ne va pas les faire aller en prison. Donc je change, les anonymise, je change leur métier, leur lieu, etc. Ouais. Mais bon, ça, je sais faire, on est journaliste.
Alors, vous racontez donc ces témoignages, hein, vous racontez notamment votre entretien avec Natalia. Natalia, elle vous dit, vous, ouais, êtes trompée sur notre compte. Vous avez cru que notre engouement pour votre mode de vie signifiait que nous étions devenus pro-occidentaux.
Oui.
C'est pas n'importe qui, Natalia.
Non, c'est une ancienne députée, ouais, c'est une ultra-patriote, extrêmement pro-russe, pro-Poutine, etc. Elle participe à certaines de ses émissions à la télévision, donc de propagande. Et effectivement, c'est une femme qui est extrêmement déterminée. C'est la rhétorique qu'on entend dans la propagande, tout à fait. Mais elle est convaincue.
Ouais.
Elle ne joue pas la comédie. Mmh. Elle est convaincue. Et beaucoup de gens le sont comme elle.
Et vous l'avez entendu, le doute? Est-ce que vous avez entendu un doute?
Alors,
de la population,
oui,
russe dans les campagnes reculées dans,
bien,
lesquelles,
sûr,
vous êtes allé? Et qu'est-ce qu'on vous a dit sur cette opération spéciale devenue guerre, sur les Occidentaux, sur au fond, le récit que leur livre régulièrement, la propagande russe, mais aussi Vladimir Poutine?
Bien, par exemple, Valia, une femme du village que je connais bien, à quelques centaines de kilomètres de Moscou, vers le sud-est, attendait d'ailleurs avec moi un coup de fil de son fils, et puis qui n'est jamais venu, et il était mort. Mm. Il venait d'être recruté. Et c'était le seul de tout le village qui venait d'être mobilisé. Donc, et puis aussi une autre jeune femme de Moscou dans un bar qui me servait un café et qui me disait, j'ai compris que vous étiez pas d'ici, vous êtes occidentale. Est-ce que c'est vrai ce qu'on nous raconte sur tout ce qui se passe de mal chez vous, la crise des gilets jaunes, tout ça, le fait que vous puissiez plus vous chauffer? Est-ce que c'est vrai? Elle avait donc des doutes. Mm. Et je lui ai bien expliqué que c'était pas tout à fait ce qu'on lui expliquait dans la propagande.
Vous avez voulu faire ce travail-là parce que vous considérez que ça n'était pas suffisamment fait dans le traitement journalistique qu'on a de la guerre depuis 2 ans. Quelles leçons vous en tirez de l'âme russe en ce moment, du cœur battant de la Russie en ce moment par rapport à ce qui se passe en Ukraine?
Alors, c'est pas parce que c'était pas suffisamment fait, c'est que moi, Caroline, je ne sais pas faire autre chose. C'est-à-dire, je fais ça depuis que je fais du reportage. C'est ma façon de faire du reportage à l'écrit, c'est d'aller, de faire surgir l'humain, d'aller au plus près, de rentrer dans l'intimité des gens pour ne pas être uniquement à faire ce que je fais aussi à la télévision dans des commentaires de déclarations officielles, etc. Je pense qu'il y a vraiment les deux. Et c'est pour ça que je voulais faire ce livre, pour que ceux qui vont le lire comprennent pourquoi cette guerre dure.
Mais qui comprennent quoi? Du côté russe, qui comprennent quoi?
Qui comprennent du côté russe qu'il y a en Russie des gens qui sont pro-Poutine et pro-guerre et qui sont en colère parce qu'ils n'arrivent pas à gagner cette guerre. Et qu'il y a en Russie aussi, ils sont moins nombreux, des gens qui sont anti-Poutine et anti-guerre et qu'eux aussi sont en colère. Ils sont en colère parce que cette guerre existe, parce qu'ils n'arrivent plus à avoir un avenir, parce que cette guerre existe et qu'elle est bloquée. Donc des deux côtés, ça ne va pas.
Alors quand on va de l'autre côté, on retrouve Oleg.
Côté ukrainien, oui.
Côté ukrainien. Oleg.
Formidable Oleg, c'est mon premier chapitre. Voilà. Alors vous avez vu ma construction, je fais un chapitre en Ukraine, un chapitre en Russie, un chapitre en Ukraine, un chapitre en Russie. J'ai voulu cette alternance pour qu'on puisse vraiment être des deux côtés. Oleg, extraordinaire, parce que vous savez, les journalistes sur le terrain, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide, on a besoin que les gens me parlent. Moi, je ne peux pas forcer les
ça
gens.
Ça veut dire qu'on a besoin
donc,
d'aide,
on a besoin de sources. On a besoin de sources. Moi, si j'écris un livre, il faut qu'on me parle. Donc Oleg, c'est un officier du renseignement ukrainien. Et malheureusement, il est mort. Depuis que j'ai écrit le livre, il est mort, sous une roquette russe, bien sûr. Et lui, il m'a prise à partie. Il m'a dit, Anne, vous nous avez abandonnés. Vous, les Français, vous, les Européens.
On sent la colère. Dans les témoignages des Ukrainiens, on sent la colère contre les Occidentaux, contre les Français, parfois. Il dit ça, Oleg. Il dit, demande à tes lecteurs quelle est, selon eux, la valeur d'une minute de vie de quelqu'un. Tu seras étonné. Nous, ici, on connaît cette valeur. Voilà. On est face à ce dilemme tous les jours. Voilà. Continue à prendre le risque de mourir ou alors tout stopper, capituler, tout perdre chez vous. Personne ne se pose ces questions existentielles. Nous, ici, sur le plateau, on commente, on fait des cartes, on dit, il faut faire ceci, cela.
Mais ça ne nous touche pas. Ouais. On n'est pas dans le drame, on ne ressent pas cette guerre. C'est pour ça que je fais du reportage. C'est pour aller sur le terrain et faire parler ceux qui la ressentent, pour que justement je choisis les mots d'Oleg pour les transmettre, pour que ceux qui vont me lire se disent, voilà, c'est ça la guerre. La guerre, c'est ça, la guerre, ça pue. La guerre, on n'en sort pas facilement. On n'en sort pas facilement. Et elle est longue, cette guerre. On le voit bien qu'elle est longue. Elle est longue et ce n'est pas une décision d'un tel ou d'un tel qui va finalement terminer les choses. Ça va laisser des traces.
Ce qui m'a étonnée dans votre livre, c'est la colère contre les Occidentaux, au fond, de chaque côté.
Oui, elle est différente côté russe et côté ukrainien, absolument, mais il y a de la déception. Et en fait, je dirais plutôt, Caroline, que c'est de l'incompréhension. En fait, les Ukrainiens et les Russes ne nous comprennent pas vraiment, mais peut-on leur jeter la pierre? Parce que est-ce que nous les connaissons vraiment?
Vous croyez qu'on ne les connaît pas?
Non, pas assez. Et je trouve qu'on ne s'est pas assez intéressé à eux et pas assez vite. C'est-à-dire qu'il y a des années qu'on aurait pu essayer de comprendre. On a manqué de discernement vis-à-vis de la Russie. On a été aveuglés.
Vous dites la Russie, pas Poutine. Nous, quand on parle de la Russie, on parle de Poutine.
Ah, mais parce qu'on a une obsession, surtout nous les journalistes, envers Vladimir Poutine. Mais Vladimir Poutine, il n'est pas immortel. Et puis, c'est pas le peuple russe, même s'il l'influence véritablement. Ouais. Mais le peuple russe, il n'est pas comme un seul homme derrière Vladimir Poutine. Ouais. Donc, il faut aller chercher les Russes qui ont le courage de me dire. Et ces deux femmes qui sont ces deux jeunes en Sibérie, deux femmes qui me disent, Anne, tu mets notre nom, qui sont défendeuses des droits de l'homme, qui font ce qu'elles peuvent pour justement essayer de faire en sorte que des soldats aient le droit de ne pas retourner sur le front, etc. Donc il y a des gens courageux.
Et vous dites, vous écrivez, les peuples sont souvent les premiers là de la guerre et désireux de reprendre une vie normale. Vous avez senti un désir, une envie de paix de chaque côté?
Le désir de paix, il est dans toutes les guerres que j'ai couvertes. Quand j'étais sous les bombes américaines en Irak, il existait. Quand j'étais sous des bombes américaines en Afghanistan, pareil. Eh bien là aussi. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, que les militaires ukrainiens sont pour l'arrêt de cette guerre. Ils veulent la gagner, les Ukrainiens. Et les Russes aussi veulent.
Alors, une dernière question sur une politique.
Moi, ça me fatigue, c'est de couvrir cette guerre. Hein. Ces guerres. J'ai plus envie. Je ne sais pas si je referai un autre livre sur les guerres. Tous mes livres depuis le départ, c'est sur les guerres et sur les gens dans la guerre.
Et celui-là vous a particulièrement heurté ?
Oui, parce que c'est une guerre qui est proche, parce que c'est un peuple que je connais bien et parce que c'est dans l'impasse. L'impasse totale.
Justement, est-ce que c'est dans l'impasse, cette déclaration d'Anne Hidalgo qui a dit à propos des Jeux Olympiques, je veux dire aux athlètes russes et biélorusses qu'ils ne sont pas les bienvenus à Paris. En réplique, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a dit, appelons à boycotter les produits français. Que pensez-vous de la déclaration d'Anne Hidalgo ?
Mais ça, Caroline, c'est de la politique. C'est l'inverse de justement de ce dont je traite dans ce livre. Mais bon, je veux bien commenter. Elle a changé d'avis, Anne Hidalgo. Elle n'avait pas dit ça il y a un certain temps. Donc pourquoi elle a changé d'avis ? C'est parce qu'elle y trouve un intérêt à changer d'avis. Ça s'appelle la politique.
Et on est bien loin des considérations de ceux que vous avez interrogés dans ce livre. Et vous dites, c'est dans les premières lignes de votre livre, vous dites la guerre, c'est sale et ça pue.
Exactement.
Et c'est ce qu'on comprend aussi.
Et il faut faire ressortir l'humain pour le comprendre.
Merci beaucoup, Anniba. Ça s'appelle La haine et le déni avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre. C'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup d'être venu en parler sur ce plateau. On retrouve dans un instant les experts de C'est dans l'air. Nous allons revenir sur cette découverte macabre du crâne du petit Émile et toutes les questions qui sont désormais ouvertes et toutes les pistes que nous allons tenter d'explorer ce soir avec nos experts. À tout de suite. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.